Le féminisme washing, ouais. De manière générale, c'est tous les gens qui ne parlent pas de féminisme, de manière générale, les grandes entreprises qui d'un seul coup vont demander à une youtubeuse ou une influenceuse dire « Ah, viens, donne ton avis !»
Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Zoom Zoom Zen, l'émission qui zoome sur notre époque à travers ses mots, ses expressions, ses concepts, et aujourd'hui, un concept qu'on va pouvoir aborder sereinement. Autant, quand on avait traité de l'écocide, Cyril avait regardé ses chaussures toute l'émission, se remémorant son sinistre aller-retour sur un week-end à Las Vegas, et les 12 bains au lait d'amande qu'il avait pris au Bellagio. Autant, quand on avait zoomé sur le concept de la société d'héritiers, Manon, qui est, rappelons-le, la nièce du député RN Thierry Mariani, n'était
c'est
pas
faux,
à l'aise.
C'est faux.
Autant aujourd'hui, on peut se regarder dans le miroir sans frémir, puisqu'on va zoomer sur la notion de féminisme washing. Or, s'il y a une boîte qui ne peut pas être taxée de pratiquer le féminisme washing, c'est Radio France. La présidente est une femme, le patron de France Inter est une patronne. C'est donc la conscience tranquille qu'on va aborder cette notion de féminisme washing quand les entreprises communiquent beaucoup sur la place qu'elles font aux femmes, mais que les faits peinent à suivre. Un thème qui tient à cœur à notre rédacteur en chef Cyril Lacarrière, qui, en épluchant les infos sur le féminisme washing, a été écœuré par ce décalage de plus en plus insupportable entre les discours et les actes, à tel point qu'hier soir, alors qu'il fleurissait la tombe de son idole Alain Delon au cimetière de Douchy, il a repensé aux mots de Dalida.
Écoute-moi.
Ça suffit, il faut en faire une émission, s'est-il dit. Car oui, j'ai trop souvent présenté Cyril comme un vieux boomer un peu réac, fondateur du collectif Justice pour François Fillon et animateur du podcast Entre Côtes, Entre Couilles. Alors qu'en fait, c'est pas vrai pour le podcast. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
Au moment.
Zoom Zoom Zen.
C'est même pas un projet.
J'ai vraiment peur que ça soit vraiment
un
projet.
Il a brainstormé ce week-end apparemment, avec lui-même.
Bon. Sur quoi ?
Non, pas avec lui-même.
Sur YouTube, sur Twitch ?
On s'intéresse à notre invité.
Ah oui, d'accord. Oui.
Mais c'est quand même moi qui ai trouvé le titre.
Absolument,
donc
Mathieu.
Ah, j'aurais des royalties.
Vous serez remercié en tout cas.
À la fin du podcast.
Par la maison, bien sûr.
Et on accueille notre invité. Bonjour Léa Lejeune.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Léa, vous êtes journaliste économique, vous avez notamment écrit pour Libération et Challenge, et vous avez sorti « Féminisme washing, quand les entreprises récupèrent la cause des femmes » aux éditions du Seuil. Qu'est-ce que le féminisme washing? Vous allez tout nous expliquer. Juste le temps de saluer mes précieux collègues, et vous pouvez d'ores et déjà le noter, la parité est respectée parmi les chroniqueurs de cette émission, à part le grand monsieur barbu qui est là. Il ne va pas rester, il va vite s'éclipser, donc on sera bien, la parité
mais
sera respectée.
Mais peut-être est-il non-genré, on ne sait pas.
Ah, ça, alors, c'est... Alors,
je pense qu'il ne sait pas ce que ça veut dire.
Non, déjà, il faudra déjà commencer par lui expliquer ce que ça signifie. Manon Mariani, Quentin Louis, bonjour.
Bonjour à tout le monde.
On vous aime, Cyril.
À vos côtés, Léa, elle n'est pas ma caution féminine, elle est ma caution jeune. Grâce à elle, je donne l'illusion que je suis moi-même en prise avec les dernières nouveautés, alors que j'appelle Jules, le rappeur le plus écouté de France. Qu'est-ce que je ferais sans vous, Manon ? Probablement que je présenterais les grosses têtes. Alors, dites-nous ce qui nous attend dans votre pièce jointe.
Eh bien, une actrice américaine qui ne fait pas l'unanimité en ce moment, à cause notamment d'une campagne de publicité jugée anti-féministe.
Oh non, vous faites encore votre teaser, on ne peut pas savoir qui c'est ?
Bah, vous savez pas
Nana Mouskouri.
C'est Nana ?
Hein ?
C'est Nana Mouskouri ?
Non, c'est pas Nana Mouskouri, c'est une actrice blonde qui joue dans Euphoria. Voilà, je vous donne assez.
Ah oui, je la connais.
C'est un autre style.
Je la connais.
Effectivement, il y a eu du changement en termes de beauté féminine depuis Nana Mouskouri, ça a changé. Face à vous, Léa, il adore les femmes et surtout les femmes puissantes. Parfois même, il leur compose des chansons sur l'air de Wonder Woman. Oui, ce monsieur a du temps libre, il est micro-trotteur.
Ouais, Quentin, talent, dites-le quand même.
Un peu de talent.
Ça va.
C'est pas vous de le dire, mais dites-le quand même.
Vous le dites jamais, donc je me permets de le dire.
Je le dis tout le temps, Quentin. Quentin, chaque matin, vous allez tester notre notion du jour sur les passants dans la rue. Alors, ce féminisme washing, c'est quelque chose dont ils ont conscience?
Disons qu'il est partout. Le féminisme est à la mode, si j'ose dire. Alors, certaines boîtes, certaines marques l'utilisent, sauf que derrière le vernis rose, rien ne change. Vos réactions, vos témoignages aussi, avec vos boîtes, avec vos entreprises, ce sera dans la prochaine demi-heure dans ce micro-trottoir complètement à la rue.
Vers 16h30, c'est qui s'est vanté d'être une boîte féministe et qui s'est fait prendre la main dans le sac pour discrimination sexiste ? Réponse dans le Zoom Zoom Test où vous croiserez des grandes banques, des grandes marques de prêt-à-porter et bien sûr des entreprises spécialisées dans le déménagement puisque selon Quentin L, PDG des DNB, les déménageurs normands au black, une femme ne peut pas porter quelque chose de lourd. Juste avant 17h, notre bilan, vous avez toujours cette petite entreprise
ça
parallèle ?
Ça s'appelle une combine,
un side
ça s'appelle
job.
Un tuyau.
Ouais, voilà.
Je refile aux amis.
Très bien, et l'URSSAF nous
bon
écoute.
Tuyau,
la noter aussi. Juste avant 17h, notre bilan hebdomadaire tombera. Sera-t-il aussi mauvais que les dernières analyses de Cyril ont pris que non? Le professeur Rollin nous dira. Après 17h, restez avec nous, on passera en mode zoom zoom back cette année, direction 1977, le fameux procès Patrick Henry et la plaidoirie historique de Robert Badinter qui débouchera sur l'abolition de la peine de mort. On va rire. Mais d'abord, Léa Lejeune, le féminisme washing, c'est exactement le même procédé que le pink ou le greenwashing, ou il y a une différence?
C'est à peu près les mêmes mécanismes. En gros, c'est un ensemble de pratiques de communication et de marketing qui vont être utilisées par les entreprises principalement, mais aussi par le politique par moment, pour justifier qu'on est féministe, qu'on est égalitaire, qu'on est inclusif dans toutes les dimensions de l'entreprise. Et c'est quoi l'objectif de faire tout ça, vous me direz? C'est un, on a vu que le féminisme était devenu à la mode. Allez, au début des années 2010, c'était assez difficile de se dire féministe. Je faisais partie de cette première génération de journalistes féministes et on s'en prenait plein la figure. Et après 2017, après MeToo, après les lois européennes pour favoriser l'égalité salariale, alors là, ça devenait à la mode. Et là, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait, un, aller chercher les consommatrices, c'est-à-dire dans la mode, dans les cosmétiques, les personnes qui vont acheter nos produits. Et pour un certain nombre des marques qui utilisent le féminisme washing, leurs consommatrices sont donc des femmes. Et deux, il fallait aller chercher les profils, les cadres sup, très diplômés, notamment dans l'ingénierie, qui sont très demandés, où il y a très peu de femmes, en fait. Et pour aller chercher ces femmes-là, on leur dit, voilà, notre entreprise est exemplaire en matière de salaire et de promotion, et ça, c'est le féminisme washing. Et effectivement, il est inspiré du greenwashing sur l'écologie, et un peu du pinkwashing. Moi, je fais la différence parce que le pinkwashing, c'est plutôt ce qui est de l'ordre de la réappropriation d'Octobre Rose et du cancer du sein, donc on est un peu dans les sujets du moment aussi.
On va développer tout ça avec vous durant cette heure. Lui, il a le féminisme chevillé au corps et même gravé sur son corps. Puisque je rappelle qu'entre ses omoplates, à côté de la croix de Lorraine, Cyril s'est fait tatouer dernièrement, à la suite d'ailleurs d'une de nos émissions, ce slogan qu'il chérit, Not All Men. Oui, je crois qu'il n'a pas très bien compris, il n'a pas très bien compris le sens de l'émission, mais tu la réécouteras en podcast, vieux. Cyril, chaque après-midi, vous remontez aux origines de notre concept. Alors, le féminisme washing, d'où ça sort, Cyril?
Eh bien, imaginez une marque qui lance un t-shirt avec Girl Power écrit dessus. Une entreprise qui repeint ses pubs chaque 8 mars, un festival qui fait monter ses célèbres marches à un collectif pour une meilleure représentation des femmes. Et puis, on apprend que l'usine fait fabriquer ses t-shirts par des ouvrières payées 2 dollars par jour, que l'entreprise qui repeint ses pubs pratique un écart de salaire de 20% entre les hommes et les femmes, et que le festival en question fait le mort quand un chef qui fait ses dîners de gala est accusé de violence conjugale. C'est ça le féminisme washing. Une expression directement inspirée du greenwashing, vous avez commencé à le dire. Vous savez, ces entreprises qui veulent se payer une image écolo à coup de jolis communiqués de presse, mais qui au fond ne changent pas grand-chose.
Alors, quand est apparu ce féminisme washing?
Dans les années 2010, dans le sillon du mouvement MeToo et d'un retour du combat féministe dans le débat public. La chercheuse française Éléonore Lépinard en parle comme d'une instrumentalisation des causes féministes. Un mécanisme que déjà 10 ans plus tôt, la sociologue Nancy Fraser avait qualifié de récupération néolibérale du féminisme. Comprendre, on promeut l'empowerment individuel tout en oubliant la justice sociale et les inégalités structurelles. Ce qui est en jeu avec cette notion, c'est la récupération d'une lutte sociale et politique pour en faire un branding cool, comme si on transformait le féminisme en marchandise. Alors, d'où ça sort le féminisme washing? Et bien de là, et ce n'est que le début de notre histoire.
Merci Cyril. Léa Lejeune, vous nous disiez, vous dites dans le livre, quand j'ai commencé à faire du journalisme engagé en 2010, je me sentais un peu seul. Aujourd'hui, 58% de la population française se dit féministe et les marques se saisissent de l'aubaine, mais c'est souvent des coups de com'. Est-ce que c'est toujours forcément des coups de com'? Quand on voit une entreprise qui communique sur son respect des femmes, le fait que la présence des femmes dans l'entreprise, est-ce qu'il faut tout de suite s'inquiéter au contraire?
Non, il ne faut pas tout de suite s'inquiéter et heureusement, il y a quelques entreprises qui savent bien faire, mais la plupart du temps, ce n'est pas forcément celle qui en parle le plus. Oui. Et puis le problème, c'est que souvent ces entreprises vont faire un peu comme sur le greenwashing, c'est-à-dire on va prendre une seule mesure, une mesure symbolique, et on va la mettre en avant. J'ai pas vérifié sur Radio France dont vous parliez tout à l'heure, mais par exemple des entreprises dans lesquelles la chef dirigeante va être une femme, et en interne il va y avoir très peu de promotions possibles pour les femmes, un problème dans l'augmentation au retour des congés maternité, un problème dans les salaires et dans la façon dont sont traités par exemple les personnels de ménage qui sont en grande partie féminin. Tout ça, c'est des questions qu'on ne s'est pas forcément posées. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Ce n'est pas juste une mesure. Vous parliez, par exemple, des entreprises qui se repeignent de couleurs. L'un des trucs iconiques, c'est McDonald's aux États-Unis qui, il y a une dizaine d'années, avait renversé le M de McDonald's. On avait fait le W de Woman en mettant ça à violet et en faisant un bon petit communiqué de presse. Bon, là, on voit très bien que ça ne fonctionne pas du tout. Mais après, il y a toute la façon dont on rend les choses possibles. Quand vous citiez le T-shirt, il est assez assez connu, c'est le t-shirt Dior. We should all be feminist. Donc il y a même Beyoncé, Nathalie Portman qui l'ont porté, Virginie Efira. Il fait hyper envie ce t-shirt sur le principe. Sauf que c'est un t-shirt blanc avec du noir dessus et qui coûte 680 euros. On ne sait pas trop dans quelles conditions il est fabriqué. Ouais. Et surtout, il n'est pas inclusif. Enfin, je ne sais pas vous, mais 680 euros, je mets rarement ce prix dans un t-shirt.
Mais ça attire plus de clientes femmes de faire du féminisme washing pour ces entreprises. Ça a pu être quantifié
Ça a pu être quantifié pour certaines entreprises, mais pas toutes. On va le voir sur des moments très précis où il va y avoir des campagnes de marketing où là, elles vont faire un ciblage. Mais sinon, non, c'est plus une ambiance générale. C'est plus... en fait, ça joue sur l'image de marque, ce qu'on appelle le brand. Ce n'est pas vraiment une publicité. Donne un résultat, mais s'il y a quand même des publicités où on voit vraiment que ça peut être efficace, et ça c'est notamment dans l'idée que dans un féminisme qui soit pas washing, il y a aussi par exemple de l'inclusion et de la diversité. Par exemple, quand Sephora avait fait la grande campagne de publicité très touchante avec une jeune femme métisse qui se met à pleurer, qu'on voit vieillir à travers les âges, avoir une partenaire bisexuelle, etc. Là on voit qu'il y a une recherche de vouloir inclure d'autres profils et vraiment de représenter une part de féminité, pas juste voilà, le segment des femmes blanches très très minces, très aisées, stéréotypées.
France Inter. Zoom Zoom Zen.
Repeindre la façade en rose ne suffira pas pour rétablir l'égalité femmes-hommes en entreprise. Zoom aujourd'hui sur le féminisme washing avec la journaliste Léa Lejeune, autrice de Féminisme Washing, justement, quand les entreprises récupèrent la cause des femmes. Léa, ce féminisme washing, finalement, c'est le féminisme récupéré par le néolibéralisme ?
Oui, c'est ça. C'est vraiment... Alors, néolibéralisme, c'est pour la partie consommation, donc c'est-à-dire on va chercher à vendre du produit, on va chercher à augmenter le chiffre d'affaires. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la façon dont les entreprises essayent aussi de recruter, de se faire passer pour exemplaire, de communiquer, et puis d'avoir la bien-vue auprès des pouvoirs publics, etc. Donc c'est vraiment toute cette dynamique-là. Alors, il y a quand même un truc qu'il faut noter sur le féminisme washing, c'est que mon livre, il date déjà de 2021. Et il y a une différence qui est en train de se produire. Ouais. Quand j'écrivais le livre, il y avait vraiment ce truc-là où toutes les entreprises, vous allez me voir venir de la tech américaine, s'assumaient féministes et se disaient nous, on est diversité, inclusion, neuroatypisme, personnes racisées, etc. Et on a bien vu à quel point c'était du féminisme washing. Déjà, à l'époque, je montrais par exemple le cas d'Amazon, qui faisait des grandes campagnes féministes pour le 8 mars, mais qui a en fait des inégalités salariales très supérieures aux autres entreprises du même genre, plus de 20% à poste équivalent aux États-Unis. Et là, on voit qu'avec Trump, en fait, finalement, tout ça a été abandonné. Ces entreprises ont lâché leur DEI, donc leurs accords diversité et inclusion. Et autant pour les femmes, les personnes LGBTQIA+, que la diversité d'origine ethnique, eh bien, tous ces publics-là, finalement, ne les intéressent plus vraiment. Et c'est là qu'on voit que c'était un faire-valoir.
On a vu récemment deux informations, vous allez nous dire ce que vous en pensez, et si c'est du féminisme washing. Le silence assourdissant des marques qui travaillaient avec Jean Humbert et qui n'ont pas communiqué après les accusations dont est l'objet le chef. De même, la défense maladroite des auteurs d'une BD sur Gisèle Pellicot quand ils ont appris que le dessinateur était accusé de violences sexistes et sexuelles. Ils se sont retranchés derrière le fait de ne pas être des juges, c'est leur justification. Est-ce que ces deux affaires entrent dans ce qu'on appelle le féminisme washing ?
Oui, on peut dire d'une certaine manière, oui. Alors, l'affaire Jean Humbert, donc accusé de violence conjugale, psychologique et physique par 3 ou 4 de ses compagnes, selon le cadre que l'on prend. Oui, ce qui est problématique, c'est qu'on a des entreprises comme Disney qui vont se revendiquer féministes, comme Dior qui vont se revendiquer féministes, comme le Festival de Cannes qu'on citait tout à l'heure, qui fait des grandes démonstrations féministes et qui essaye de se remettre en question après toutes les affaires de réalisateurs qui étaient mises en cause. Et là, en fait, on voit très bien que ces entreprises-là, elles se disent ok, on sait pas trop ce qui se passe, la procédure juridique a pas lieu, finalement on va pas parler, on va juste répondre vite fait, avec, en fait on a rien compris au communiqué de presse parce qu'il y a pas d'informations dedans, mais on va juste parler vite fait pour dire qu'on a répondu, et on va attendre que ça se tasse, que ça passe sous le tapis. Ça me gêne un peu, et là où ça me gêne encore plus, c'est sur le cas de la BD féministe, donc c'est Notre Affaire, c'est une BD sur l'affaire Mazan, qui est écrite par... en fait, c'est 12 personnes, c'est un collectif d'auteurs, dessinateurs, etc. L'auteur principal n'est pas mis en cause, Mathieu Palin, mais dans les autres auteurs, il y a ce BDaste. Et là, par contre, moi, je suis pour le coup extrêmement gênée, c'est-à-dire que les éditions Iconoclaste, c'est une maison d'édition qui est connue pour ses engagements féministes, pour avoir publié par exemple l'autrice Titiou Lecoq, pour être vraiment là-dedans. L'effet de violence conjugale était connu, était déjà sorti par une plainte. Donc ça veut dire qu'on s'est associé, on a mis plein de gens autour de la table sans avoir vérifié qui était coupable de quoi auparavant. Et au moment où on leur demande, on dit oui, mais c'est une affaire juridique. Oui, bien sûr, c'est une affaire juridique et on protège la présomption d'innocence et tout. Mais il y avait d'autres manières de réagir. Il y avait une manière de montrer déjà qu'on avait compris l'enjeu des violences sexistes et sexuelles dans un bouquin comme ça. L'enjeu, c'est que entre les personnes qui portent des accusations de viol ou de violence conjugale et les personnes qui sont réellement condamnées à la fin, on est plutôt sur 1%. Donc on sait bien que tout n'est pas réglé par la justice. Et par exemple, on aurait pu imaginer d'autres manières, c'est-à-dire décider de rééditer la BD pour les rééditions futures sans cet auteur-là et en prenant une dessinatrice différente. Voilà, il y a des manières de faire pour montrer qu'on a compris les enjeux sur lesquels finalement on se rémunère.
Et vous, ça vous inspire quoi, le féminisme washing? Cyril vient de recevoir un SMS de Pascal Praud qui lui dit « Rien, encore une heure de perdu avec nos impôts ». Mais Quentin, dans la rue, il y a peut-être d'autres sons de cloche.
Allez, sortons prendre l'air et voyons comment notre sujet du jour prend avec les passants. Fin de matinée, je sors le micro France Inter. Je rencontre cette femme qui sort d'une librairie. Elle découvre le thème du jour de Zoom Zoom Zen.
Ah, le féminisme washing.
De quoi on parle?
À mon avis, de féminisme, c'est pas vraiment mon délire. Allez-y.
De quoi, le féminisme?
Ouais, tous ces trucs. Parce que je pense que parfois, il ne faut pas non plus trop parler d'un certain sujet. Et je trouve qu'effectivement, les années 80, c'était bien. Femme
des années 80. Alors ?
Ah bah dis donc !
Hein ?
Super.
C'est de la mauvaise pioche, ça. Moins Colombine, qu'Arlequin, finalement. Heureusement, plus loin, je tombe sur Alicia, 20 ans, qui attend devant un cinéma.
Le féminisme washing, ouais. De manière générale, c'est tous les gens qui ne parlent pas de féminisme. De manière générale, les grandes entreprises... qui d'un seul coup vont demander à une youtubeuse ou une influenceuse dire « Ah, viens, donne ton avis !» ou qui font semblant d'en avoir quoi que ce soit à faire, des fights un peu féministes, le jour de la lutte des droits pour la femme et le lendemain, on n'en entend plus parler. Même chose que pendant la Pride, quand d'un seul coup, tout le monde adore les arcs-en-ciel.
Ouais.
Du moins dans ma tête, c'est la même chose.
Le fameux rainbow washing. Et Alicia, malgré ses 20 ans, elle n'est pas dupe du jeu de certaines entreprises.
Parce que c'est très facile de dire non, mais on va mettre la parité. On a une femme qui est PDG dans notre entreprise, donc on est carrément féministe. Et lire une femme, c'est pas être féministe. De la même manière qu'être une femme, c'est pas être féministe. C'est deux choses différentes. Faut que dans tes actions, on se rende compte que ce soit le cas dans les politiques, que ce soit le cas dans la manière dont tu dépenses ton argent, que ce soit quelque chose d'un petit peu cohérent.
On a entendu un Michel des années 80 tout à l'heure, mais attention, un Michel peut en cacher un autre.
Féminisme, washing, de tout ce qui tourne autour du féminisme et... Et à tire-larigot.
À tire-larigot, bien sûr. Je commence à raconter à Michel ces entreprises, ces boîtes qui font du féminisme par l'image et le marketing, alors que derrière, elles ne respectent pas la parité, par exemple, les engagements ou l'égalité salariale.
Alors l'égalité, pour moi, ça n'existe pas. Il n'y a jamais d'égalité. Après, dans une société...
On parle d'égalité salariale, Michel.
Ouais, mais égalité salariale, il y a toujours un truc. Dans l'ère actuelle, vous avez des gens qui se présentent avec... des anneaux dans le nez, des machins, vous pouvez pas espérer. Moi, j'ai en consultation des mômes que je connais depuis longtemps, qui viennent maintenant et qui me disent « wesh, wesh, voilà ». Après, s'ils vont comme ça chercher un emploi, ils l'auront pas.
Pour Michel, cette génération veut progresser dans le monde de l'entreprise sans en avoir les codes. C'est à ce moment-là que deux auditeurs, fans de Zoom Zoom Zen, me reconnaissent.
Mais on est ravis de vous voir, on met un visage. Vous n'êtes pas si petit que ça. C'est vraiment des monstres, les autres.
Continuez, allez-y, parce que pour mon dossier DRH...
Je suis des monstres.
Oui, des monstres.
Des monstres bienveillants, c'est
curieux,
monstres et compagnie.
Curieux du mot du jour, voilà ce que le féminisme washing leur inspire.
Parce que, en fait, maintenant, toutes les pubs sont teintées de féminisme, on voit plus jamais une femme qui fait la lessive ou qui fait la vaisselle. Alors que bon, dans la vraie vie, on sait que c'est pas comme ça.
Il pense au Quentin, vous faites votre lessive vous-même?
Ah, moi je suis un dingue de la lessive. Ah, vous pouvez demander à ma meuf, je suis un peu, même presque un peu toqué. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit moi qui étende le linge, parce que s'il est mal étendu, je vais mal dormir.
D'accord.
Avant de partir, et comme ce sont des fans de toute l'équipe, ils ont un petit message à faire passer.
Pierre Courade, il a pas l'air sympa. Hein.
Non, je veux dire avec Pierre Courade que nous, on était allé en vacances au Cap Vert et c'était très très bien.
Ah oui,
il a pas choisi la bonne île, le bon hôtel, je sais pas quoi.
Son expérience ne vaut pas la peine.
On veut pas savoir. Son expérience ne vaut pas la peine.
Il a pas l'air sympa.
Ma dernière rencontre, c'est cette jeune femme en tailleur noir, cheveux tirés en arrière.
Ok.
On essaye?
Allez, alors attendez, j'ai... Il y a France Inter qui m'arrête.
C'est qui au téléphone?
C'est mes sœurs.
Ah.
Alors, féminisme... Oula ! Féminisme washing.
Elle voit très bien de quoi on parle, elle bosse dans une grosse boîte qui joue un peu à ce jeu-là. Est-ce que ça l'énerve ?
Oui, est-ce que ça m'énerve ? Oui. Alors, moi, dans ma boîte, ce que j'ai observé, c'est que j'ai une collègue qui a eu, malheureusement, un petit problème de règles qui sont arrivés dans la journée. Elle en a parlé, du coup, à un N+1 qui était présent, qui s'occupe de nous. Et cette personne-là l'a regardée en disant, organise-toi. Parce qu'elle n'avait rien sur elle, du coup, et voilà, ça s'est arrêté là. Et du coup, elle a dû se débrouiller, aller chercher, du coup, ce dont elle avait besoin. Mais derrière, ça lui a créé quand même des soucis, parce qu'on l'a considéré comme une absence.
Alors, qu'en façade, l'entreprise met en avant les femmes.
Beaucoup de femmes, etc., des hauts postes, mais bon...
Ouais, entre slogans en vitrine et réflexions en réunion, il reste ce paradoxe, célébré en images, ignoré en pratique. C'est ça aujourd'hui en entreprise, être une femme.
Bel hommage à Michel. Quentin, un très beau micro-trottoir dans lequel vous avez réussi à vous auto-interviewer.
Ouais,
parce qu'on a appris des choses sur votre vie privée. C'était vraiment.
Il faut bien les remplir, ces 4 minutes.
C'est vraiment
très, très étonnant.
C'est vraiment son moment.
Léa Lejeune, une réaction peut-être sur ce dernier témoignage. Les règles en entreprise, toujours un problème en 2025, ça paraît dingue.
Alors oui, moi j'aurais même dit que là, au-delà des règles, on était sur de l'empathie toute bête. C'est-à-dire quelqu'un qui a un souci, on peut quand même lui rendre un service. Et ça aide même la productivité et l'entreprise. À la rigueur, même le patron serait content. Les règles, on l'a vu effectivement sur la question du congé menstruel, qui était très, très... qui a beaucoup divisé, même au sein des cercles féministes. Parce qu'aussi, l'avantage, c'est que du coup, on n'a pas besoin de justifier ce type d'absence, notamment pour les personnes qui ont des maladies plus graves liées aux menstruations. Mais aussi parce que finalement, les personnes allaient se retrouver absentes. Il y avait avoir un soupçon que les femmes pouvaient prendre quelques jours de congé de plus que les hommes. Et ça, dans notre façon de voir le féminisme et l'égalité homme-femme en France, qui était, je le rappelle, au départ très universaliste, homme ou femme, on est tous pareils, on fait tous exactement pareil, on a du mal à faire coïncider parce qu'effectivement, oui, il y a des différences biologiques, mais c'est ça le principe de l'égalité, c'est qu'en fait, les différences biologiques ne doivent pas se transformer en inégalité, en inégal accès aux opportunités, au pouvoir, au salaire, etc.
Vous parlez également de la dérive d'un féminisme de marché en prenant la figure de Frida Kahlo, que l'on voit évidemment maintenant un peu partout, t-shirt, etc. J'étais au Mexique cet été, donc vraiment partout. Qu'est-ce que ça dit, cette représentation de Frida Kahlo aujourd'hui ?
C'est tout le principe d'avoir complètement dépolitisé un objet politique fort. Donc il ne faut pas oublier que Frida Kahlo, non seulement c'était une peintre très connue, effectivement c'est une femme qui a réussi à vivre de la peinture les dernières années de sa vie, ce qui est très rare dans ces métiers-là à l'époque. C'était une personne féministe qui a été mariée, puis divorcée, puis qui a eu des amants. Mais c'était aussi une personne d'extrême gauche, radicale, anticapitaliste, qui avait à un moment, parce qu'elle était aussi handicapée, à un moment elle avait peint son corset à l'hôpital avec une faucille et un marteau. C'est pour dire aussi à quel point on a récupéré des images en les détournant complètement de leur objectif. C'est ça un peu le problème de... Ça c'est le féminisme washing dans la version petit objet, collecteur, où on va...
C'est sympa.
Et ça nous rappelle un peu Che Guevara,
oui,
en fait, finalement,
oui,
cette figure politique très disruptive et qui devient aller sur tous les t-shirts des adolescents.
J'ai bien aimé l'exemple de la pub pour la lessive. Est-ce qu'aujourd'hui, on invente une fausse réalité woke et déconstruite, alors que finalement, les clichés de genre galopent encore à la maison?
Alors, sur les inégalités dans la répartition des tâches ménagères, oui. Il y a encore une heure de différence de tâches ménagères entre les hommes et les femmes par semaine. Ouais. On n'y revient pas trop quand on regarde depuis les années 80 pourquoi les tâches ménagères bouge. Ce n'est pas tellement parce que les hommes prennent plus leur part, même s'ils prennent un petit peu plus leur part, c'est quelques pourcentages. C'est principalement parce qu'on a plus d'électroménager et donc on a gagné du temps grâce à ça. Et donc, oui, effectivement, quand on fait des pubs comme ça, on pourrait dire qu'on a pris de l'avance sur la société. Et en même temps, on essaye de donner l'exemple et on essaye de donner envie aux hommes d'acheter cette lessive et donc de leur dire,
c'est
allez,
pas plus mal, quand même,
c'est une tâche un peu virile, moi aussi je peux m'en occuper.
Et comme je pensais par exemple aux livres pour enfants aussi, dans Tchoupi, parce que moi j'ai le Tchoupi, j'ai la compilation des Tchoupi pour ma fille.
Ça
remonte, les premiers c'est dans les années 80. C'est toujours la maman qui fait la lessive, machin, et puis petit à petit au fil des années, quand on arrive dans les années 2010, c'est fini, c'est toujours le papa. Ils mettent toujours systématiquement le papa qui fait la cuisine, la maman qui travaille à l'ordinateur. Et c'est quelque part, même si ça correspond pas encore tout à fait à la réalité, c'est bien de donner cette image-là.
Et il faut savoir que la publicité ou les médias dans leur ensemble ont parfois, à certaines périodes, pris totalement les devants en mettant des figures qui n'étaient pas représentatives. Et on en a besoin aussi pour avancer.
Mathieu Noël sur France Inter.
Comment évoquer le fléau du féminisme washing sans citer Michel Sardou ?
Les femmes ont raison de se défendre, ont raison de réclamer le même salaire que les hommes. Par contre, qu'elles en fassent pas trop.
Je sais, Cyril, je sais, l'extrait est sorti de son contexte. Oui. Michel Sardou est comme vous, un fervent féministe, il est juste incompris. Comme vous, lorsque la mairie de Ponto Combo vous avait interdit l'année dernière d'organiser le 8 mars un concours de t-shirts mouillés pour, je vous cite, « célébrer le beau sexe ». Ce quiz en forme de florilège du féminisme washing vous est donc dédié à vous ainsi qu'à Michel. Jouons au Zoom Zoom Test. Et pour la première question, direction, aux surprises, les États-Unis d'Amérique. Ce pays auquel chaque matin, avant d'avaler le premier de ses 7 Dunkin' Donuts, Cyril rend hommage en interprétant Born in the USA à la flûte à bec, agenouillé devant une photo de Donald Trump. Vous connaissez tous évidemment Goldman Sachs. Non, Quentin, ce n'est pas le nouveau projet musical de Jean-Jacques Goldman, mais une banque. Une banque. Est-ce que vous voyez ce que c'est qu'une banque ? Ça sert à placer de l'argent, à emprunter, faire des virements. Toujours pas ? Vous voyez votre boîte de paraboot où vous mettez tous vos billets ? Eh bien, c'est pareil, mais en plus grand, avec des gens dedans. Bref, Goldman Sachs est vraiment une banque vertueuse en toute décontraction, car elle a été condamnée en 2023 à payer une amende de 210 millions de dollars pour discrimination sexiste et harcèlement, alors que Goldman Sachs a une fondation dédiée à l'entrepreneuriat féminin. Goldman Sachs refuse de travailler avec les sociétés ne disposant pas d'au moins une femme ou une personne issue de la diversité dans leur conseil d'administration. Mmh. Ou Goldman Sachs a une section fémène au comité d'entreprise.
Oh, A, B.
C.
A, B. Les deux.
A, B.
Oui.
Est-ce que notre invité vous a soufflé ?
Non, pas du tout.
C'est
non.
rare, une c'est... double bonne réponse comme ça. Oui, bonne réponse de Manon Mariani. A et B.
Étonnant.
210 bars pour indemniser 2800 employés victimes de discrimination et de harcèlement. Alors qu'on vante l'empowerment féminin, on est sur une belle ablation de la honte, opération régulièrement effectuée pour la Journée internationale des droits des femmes. Mmh. Tenez, en Afrique du Sud, en 2015, quelle entreprise française, mondialement connue, s'est distinguée avec cette campagne que je vous traduis ? Sois féminine, agis comme une dame, pense comme un homme et travaille comme un patron. Hashtag bonne journée des femmes. Est-ce que c'est
bien écrit.
Les rasoirs Gillette, les stylos Bic ou les sacs Louis Vuitton?
Ah, je crois que c'est Gillette.
C'est
la perfection masculin.
C'est.
Je vous donne l'opportunité d'une autre réponse.
Les trois.
B, ah, c'est... Bah, B du
comment,
coup.
Comment ça pourrait être les trois? C'est-à-dire que les trois marques auraient essayé la même campagne de pub?
J'en sais rien.
Louis Vuitton
c'est
et Bic.
C'est pas très logique, Quentin.
Non, c'est illogique.
B.
Je n'aime pas les raisonnements illogiques. C'était la réponse B, Manon, mais c'était
Bic.
Trop tard. Oui, Bic. B de bye, I d'indigne et C de ciao. La pub a été très vite retirée après une légitime c'est vague de protestation. Nous sommes absolument navrés d'avoir offensé qui que ce soit. Cela n'a jamais été notre intention, mais nous avons pleinement conscience que nous avons fait fausse route, dira le directeur Afrique du Sud de Bic. Une boulette, mais pas un cas isolé. Direction à présent, l'Angleterre. Nous sommes le 8 mars 2021. Quentin Him, publicitaire en vogue, notamment depuis sa réclame choc pour les pétillants Charles Vollner.
Ce vin pétillant sera le partenaire idéal pour vous accompagner avec élégance dans tous les moments de l'apéritif au dessert.
Quentin Him, le Séguéla des années 2020, est donc contacté par Burger King pour concevoir une opération spéciale Journée internationale des droits des femmes. Le résultat sera hélas un invraisemblable fiasco. D'après vous, quel était le pitch de cette campagne Burger King ? Un pink whooper sauce tarama, parce que le rose, les filles adorent. Mini-jupe obligatoire pour les équipières, parce que c'est leur journée.
Oh.
Ou des tweets borderline, avec notamment le slogan fédérateur « Women belong in the kitchen », les places, la place des femmes est à la cuisine.
C'est parce qu'il est un peu taquin, le...
Ouais, le CM de Burger King, mais je dirais B, moi, quand même.
Et on leur a mis des mini-jupes.
Ouais.
C'est quand même...
Et vous, Quentin ?
C'est, moi, je dirais.
Bonne réponse de Quentin, oui, comme quoi tout arrive dans cette émission. Oui ! Fin de carrière publicitaire pour Quentin Outre-Manche. Il se recentrera sur son principal client, Charles Vollner. Des nouvelles, un nouveau contrat avec les pétillants.
Non, j'ai arrêté. C'était ma vie d'avant.
Et pour conclure ce quiz au pays du féminisme washing qui parfois laisse des grosses taches, écoutons ceci.
If we show emotion, we're called dramatic. If we want to play against men, we're nuts.
Les plus féministes d'entre vous, donc pas Manon, auront certainement reconnu la voix de Serena Williams dans ce spot dévoilé par Nike pendant la coupure pub des Oscars en 2019. Spot magnifique à la gloire des femmes dans le sport. Cyril en avait chialé. J'avais rien entendu d'aussi beau sur les femmes depuis le dernier roman de Yuan Moix, avait-il déclaré entre deux sanglots. Malheureusement, ce spot illustre à merveille notre thème du jour puisque quelques mois plus tard, Nike se fait rattraper par la patrouille. D'après vous, pour quelle raison ? Parce qu'on a découvert que Nike réduisait les primes à la performance des sportives venant d'accoucher. Parce que Nike retouchait les photos des athlètes féminines pour les rendre moins musclées, ou parce que Nike imposait un quota de posts Instagram sexy aux sportifs sous contrat.
Les trois.
J'irais B, moi.
Vous avez une vision du monde, Quentin, et de l'entreprise Nike. C'est déplorable.
C'est pas
B.
Réponse B. Eh bien, c'était la réponse A. Eh oui. C'est la DD, c'est la Daisy, c'est la désillusion. Puisqu'en effet, quelques semaines après la diffusion du spot Crazier avec Serena Williams, la sprinteuse Alison Felix, 7 médailles d'or olympiques, dénonçait les pénalités contractuelles appliquées par la marque en cas de baisse de performance postpartum, ainsi que la pression mise pour revenir à l'entraînement malgré une grossesse et un accouchement compliqué. Scandalisé, Cyril Lacquerre, qui venait d'acheter une paire de running, avait décidé de boycotter la marque et mieux, de renoncer au sport de manière générale. Bravo à Manon qui remporte ce quiz sur le fil. Elle s'en étonne elle-même. C'est la modestie des grandes championnes. La journaliste Léa Lejeune est toujours avec nous pour décrypter le phénomène du féminisme washing. Léa, dans votre livre « Féminisme washing, quand les entreprises récupèrent la cause des femmes », vous dressez une liste des grandes washeuses, Publicis, Uber, McDonald's. Pourquoi ces entreprises sont pour vous des archétypes du féminisme washing ?
C'est vraiment pour les exemples qu'on a utilisés, c'est-à-dire une habitude de prendre un petit exemple ou une petite chose à peu près bien qu'on a fait pour les femmes et l'ériger comme si c'était un ensemble de la société. Le fait d'avoir des campagnes de pub où vraiment on montre volontairement des femmes dans d'autres façons, de se comporter dans d'autres façons d'être, mais en fait on l'applique pas. Mais après c'est à chaque fois des petites choses en fait, c'est pas des grands principes. Si je prends par exemple Uber, ça va être le fait que Uber se faisait passer pour féministe, alors que Uber, c'était une entreprise avec, originairement, à cause de son PDG, une entreprise très dure et très violente en interne, au moins verbalement, où les blagues sexistes n'étaient jamais réprimandées et autres. Et puis aussi, une entreprise qui a très mal réagi quand il y a eu, à l'époque, la campagne Uber, c'est over. C'est-à-dire toutes ces jeunes femmes qui avaient dit qu'elles avaient été soit harcelées sexuellement, soit agressées sexuellement par des chauffeurs Uber.
Comment ils avaient
réagi ? Et qui avaient, au début, ils avaient répondu vraiment mou du genou, quoi. C'est-à-dire, on fait un petit communiqué de presse, on dit que le problème est résolu, on baisse un peu, ils avaient ici un moment une baisse de la tarification pour les femmes, bon, ça n'a pas duré, évidemment. et après, au final, un an et quelques après, ils se sont mis à prendre des vraies mesures. Par exemple, n'importe quel nouveau chauffeur Uber, quand il était formé au début dans son application, il avait toute une formation aux violences sexistes et sexuelles qui était obligatoire et qu'il ne pouvait pas zapper. Donc, peut-être qu'il regarde autre chose à la télé pendant ce temps-là, mais en tout cas, ça fait partie des démarches où l'entreprise a fait attention, et puis l'entreprise aussi a fini par se corriger en donnant des informations qui permettaient aux policiers de pouvoir recroiser qui était le chauffeur. Mais ça, il a fallu un an ou deux ans pour qu'il commence à vraiment réagir, et c'est pour ça que pour moi, au moment de l'écriture du livre, c'est un archétype, et un an ou deux après, tu te dis enfin, c'est ça qu'on attendait.
On parle d'entreprises qui font les choses mal, mais est-ce qu'il y en a qui font vraiment les choses bien? J'ai vu que vous parliez de L'Oréal, par exemple.
Oui, voilà, il y a des entreprises qui font des choses bien et bien heureusement. Et c'est vraiment une addition de petites mesures. Chez L'Oréal, alors vous voyez par exemple L'Oréal, le patron, le directeur du conseil d'administration reste un homme. Mais c'est une entreprise qui a pensé à tous les niveaux. Déjà, c'est une entreprise qui est très bien notée en matière d'écart de salaire homme-femme, qui a les plus petits écarts de salaire homme-femme dans les entreprises françaises. Pour s'améliorer là-dessus, elle a même fait intervenir une chercheuse en statistique qui a fait des relevés pendant 3 ou 4 ans pour s'améliorer. Aujourd'hui, il existe un index qui s'appelle PENICO, l'index égalité femmes-hommes. L'Oréal a 99 sur 100 ou 100 sur 100.
Ah oui.
L'Oréal, depuis très longtemps, augmente les femmes au moment du retour des congés maternité. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est obligatoire depuis les années 80 dans la loi et que beaucoup d'entreprises françaises ont plus ou moins découvert il y a quelques années au moment de l'index PENICO. L'Oréal, c'est aussi une entreprise qui va mettre en place du mentorat pour que les femmes cadres qui sont repérées comme étant à haut potentiel soient accompagnées et puissent progresser au fur et à mesure. C'est une entreprise qui va penser sa publicité. Est-ce que j'ai vraiment représenté la plupart des femmes de toutes les origines ethniques, des âges différents? Ils font très attention. On l'a vu dans le défilé L'Oréal là récemment, pour la Fashion Week, qui était un très beau défilé. Et donc, là, il y avait vraiment ce mélange entre des mesures très, très, très pratiques et des mesures de vision. Cependant, j'ai quand même remarqué un truc qui n'allait pas et qui n'était pas là il y a quelques années. C'est qu'il y a un recul sur la grossophobie des marques de mode et donc sur l'inclusion des femmes grosses. Il y a une enquête qui est sortie dans Vogue US qui a dit qu'il y avait 10 fois moins de mannequins de grande taille. On rappelle que grande taille, c'est un 42. Donc, pas une grande taille, parce que c'est la moyenne des Françaises. Mais il y avait 10 fois moins de mannequins de grande taille qu'il y a quelques années. Et donc, on voit vraiment que même ça, il y a eu quand même une sorte d'effet de mode. Et on aimerait que ça se stabilise dans le sens... il y a une vraie diversité, quoi.
Avec tout le bien qu'on a dit de L'Oréal, s'il ne m'envoie pas du kérastase bain densifiant par pack de 12, je ne m'appelle plus Mathieu Noël. Quentin, vous aviez une question.
Mais peut-être que nous, on peut faire quelque chose en tant que consommateur. Est-ce qu'on peut éviter ce féminisme washing? Comment on peut faire?
Par exemple, on peut ne pas tomber dans le piège de relayer des publicités qu'on trouve géniales si on sait que l'entreprise, ou si en faisant juste une toute petite recherche Google, on voit qu'elle a été condamnée en discrimination en raison du genre ou de l'origine sexuelle, de l'identité sexuelle. Voilà, ça c'est des choses qu'on peut faire. On peut ne pas tomber dans le piège en permanence de tous ces trucs marketing. Vous citiez tout à l'heure Frida Kahlo. Mmh. Bon, moi j'avoue, c'est le piège dans lequel je suis tombée. J'ai évidemment un objet Frida Kahlo chez moi. C'est en partie de ça de venir l'idée du bouquin au départ, mais vraiment essayer de pas tomber dans ce nouveau truc. Ce matin, je voyais une bougie santé mentale féministe pour avec une bonne odeur pour se remettre pendant nos périodes de SPM, de syndrome prémenstruel.
Une belle idée cadeau pour Manon, pour son anniversaire.
C'est le genre de choses qu'il ne faut pas acheter pour ne pas tomber dans le piège. Mmh. Et puis, les entreprises ne sont pas obligées d'en faire des tonnes en communication féministe si elles n'ont pas encore réglé les problèmes en interne, elles peuvent aussi communiquer sur autre chose.
Vous écoutez France Inter et c'est toujours très judicieux. En tout cas, c'est l'heure de découvrir la pièce jointe de Manon Mariani.
Une actrice aujourd'hui, elle s'appelle Sydney Sweeney. On la connaît surtout grâce à son rôle de Cassie dans Euphoria. Vous êtes content de parler de
parce que tout à l'heure, on l'a dit.
Sydney Sweeney, Quentin.
On l'a un peu susurré.
C'est très dérangeant, Quentin. C'est très dérangeant.
Très bien. On sait de qui on parle.
Donc, elle joue Cassie dans Euphoria, la série qui l'a révélée. Et puis, elle est connue pour son physique avantageux de jolie blonde au gros sein. Alors, si je parle de son physique, c'est évidemment pas pour la sexualiser ou l'objectifier, mais parce qu'elle-même en joue. Son corps est devenu sa marque de fabrique. Et même son business. L'année dernière, elle a sorti son propre savon avec une particularité, il est parfumé à l'eau de son bain. Un produit présenté comme une réponse décalée au fantasme des fans, car certains lui demandent littéralement de vendre son eau de baignoire.
Hello you dirty little boys. Are you interested in my body? Wash. Well, you can't have it.
Les garçons, vous êtes intéressés par mon corps, enfin mon savon pour le corps, vous pouvez l'avoir. Une campagne de pub qui avait pour objectif d'être un symbole d'empowerment, de féminisme même, sauf que les réactions ne sont pas du tout allées dans ce sens. Sydney Sweeney a été accusée de jouer le jeu de ces harceleurs et d'en faire un business derrière. Certaines femmes disent même qu'elle fait reculer la cause féministe. L'actrice a aussi été au cœur d'un autre scandale cet été. En juillet, la marque American Eagle a lancé une campagne publicitaire intitulé Sydney Sweeney has great jeans, qui joue sur le jeu de mots entre jeans, les jeans, Levi's par exemple, et les gènes du coup. Le corps de l'actrice est encore filmé de très près et le message véhiculé a suscité la controverse. Certains ont trouvé que la marque jouait sur le fait que Sweeney représente des normes de beauté caucasienne, blonde, yeux clairs et évidemment le fait qu'elle ait un corps avec des mensurations proches de la perfection, du moins proches de la perfection selon certains regards masculins. Ça a encore ajouté une pièce dans la machine, d'autant plus que cette campagne a créé un clivage entre les camps politiques américains. Elle a été sévèrement attaquée par la gauche américaine qui est allée jusqu'à la traiter de nazie. Et de l'autre côté, elle a été soutenue par les conservateurs. Donald Trump et J.D. Vance ont dit adorer cette pub avec Sydney Sweeney, tu m'étonnes. L'actrice n'est plus très bien vue par les féministes qui apprécient de moins en moins ses prises de position, que ce soit pour du savon ou pour des jeans. Faut-il y voir du féminisme washing de sa part? C'est une question que l'on peut se poser.
Merci Manon. Léa Lejeune, est-ce que comme Sydney Sweeney, il y a des femmes publiques qui jouent un peu aux féministes sans en prôner les valeurs, peut-être même qui desservent la cause?
Desservir la cause. Oui, non, mais forcément, il y en a. Je veux pas faire la donneuse de leçons de la bonne ou de la mauvaise féministe. Mmh. Voilà, c'est pour ça que votre question me dérange
un peu.
Sur Sydney Sweeney, je pense que la question se pose plus vraiment sur des individus qui, par moment, font de mauvais choix. Oui, ça arrive, mais je pense que surtout, il faut changer les pratiques et les façons de faire. C'est-à-dire qu'on peut se corriger, on peut s'excuser, on peut faire une autre publicité. Vous avez vu l'autre publicité de, je sais plus le nom, de la marque de jeans concurrente qui a sorti juste derrière une publicité avec des femmes de...
C'était Levi's,
des femmes de toutes les origines ethniques, avec une petite danse, un truc vraiment où elles ne sont pas sexualisées, on voit vraiment des femmes qui jouent, qui se marrent, qui s'amusent, qui sont des personnes agissantes. Je pense que voilà, il y a des façons de faire et on peut répondre et on peut aussi se corriger à un moment ou à un autre. Toute féministe que l'on soit, on fera toujours une erreur en matière, j'en sais rien moi, d'augmentation salariale, de droit du travail ou d'autres. On pourra... aussi dire du mal d'autres femmes, parce que c'est un grand classique, les femmes ne sont pas à l'abri de dire du mal d'autres femmes, mais on peut se corriger, on peut faire l'effort d'évoluer.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Il se présente volontiers sur LinkedIn comme expert en femmes. Et effectivement, qui de mieux qu'un homme qui, jusqu'à l'âge de 21 ans, a cru que les femmes avaient toutes leurs règles en même temps, de manière synchronisée à la fin du mois, pour nous résumer tout ce qu'on s'est dit sur le féminisme washing. En une minute chrono, bien sûr, Pierre Courade.
Oui, au moins, on ne pourra pas m'accuser de féminisme washing, ni même de Cap-Vert washing, Quentin. Le féminisme washing, pour prendre une image que Cyril m'a soufflée, c'est comme le Canada Dry, ça ressemble au féminisme, ça a la couleur du féminisme, mais ce n'est pas du féminisme. C'est lorsqu'une marque se sert de l'imagerie du féminisme pour faire vendre, sans pour autant pratiquer le féminisme au sein de l'entreprise, faut pas déconner. Pour en parler avec nous, Léa Lejeune, journaliste économique, elle nous a expliqué que tout ça n'est que du marketing, à l'image du greenwashing, quand les marques surfent sur l'écologie, mais qu'en fait, elles ne participent pas du tout à la lutte contre le réchauffement climatique. Ça marche pareil avec le féminisme, hein, qui est donc perçu par les directeurs marketing comme une simple mode, surtout après MeToo, sans pour autant appliquer ses préceptes, notamment dans l'égalité salariale ou dans la pratique ou dans la politique contre le sexisme. En fait, notre invité nous a expliqué que la plupart du temps, les entreprises qui en font le plus pour l'égalité entre les femmes et les hommes sont aussi celles qui en parlent le moins. Ce qui se passe, c'est que les entreprises prennent une mesure symbolique, une seule, et la mettent en avant, mais il suffit qu'un Trump arrive au pouvoir pour que toutes ces boîtes, notamment dans la tech, effacent leur féminisme de façade. Preuve que tout cela n'est qu'un leurre.
Merci beaucoup Pierre pour cette chronique dont je sais que François Rollin estime qu'elle est l'une des moins pires de l'émission. Dans sa bouche, c'est déjà un beau compliment. François, justement, c'est l'heure de votre traditionnel bilan de la semaine. Vous nous avez écoutés, et alors ?
Eh bien, cher Mathieu et cher sa bande, pour le bilan de cette sixième semaine de la saison, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas décortiquer chaque sujet ni chaque jour. Je vais plutôt faire un tir groupé et donner une évaluation globale. Ça n'allait pas. Du tout. Non que vos sujets fussent dépourvus d'intérêt, loin s'en faut. Non que leur traitement pêchât par manque de travail ou d'application. Mais ça n'allait pas parce que vos thèmes de la semaine, aujourd'hui inclus, étaient tous trop pointus, trop sophistiqués, trop compliqués. La cybernétique, les antidiabétiques, la vie rustique, les capitales erratiques, le féminisme marketing, ça c'est pour la rime, hein, sinon c'est un néologisme de mon cru. Autant de sujets qui impliquent de notre part une douloureuse concentration, favorisant à la fois la somnolence et les accidents vasculaires cérébraux. Il eût suffi pour que ça aille bien que vous explorassiez un seul et unique sujet, plus populaire, plus ancré dans le réel, un sujet capable de se décliner sur les 5 jours de la semaine en 5 épisodes haletants. Je veux parler de la tricote. Rien à voir avec le tricot, qui est une activité certes utile, mais terriblement monotone. Non, la tricote, c'est le nom vernaculaire du maillet en bois qui sert traditionnellement dans le Périgord à casser les noix pour en extraire intacts les précieux cerneaux. La tricote suscite de multiples questions que je vais poser, mais auxquelles je ne répondrai pas pour ne pas vous couper l'herbe sous le pied, car je ne doute pas que vous vous emparerez bientôt avec enthousiasme de ce sujet à résonance universelle. Combien pèse en moyenne une tricote ? À 5 grammes près. Quel est le bois dont on fait les tricotes ? Et fait-on également des flûtes de ce bois-là ? Qui a inventé la tricote ? Un périgourdin peut-être ? Ah ! Attention aux clichés, pourquoi pas une périgourdine, ou un laotien, ou une laotienne. Combien de noix un orfèvre de la tricote peut-il casser à l'heure ? Que devient un casseur de noix auquel on a volé sa tricote et qui ne peut donc plus nous casser les noix en attendant les conclusions de sa compagnie d'assurance ? 10 périgourdins et dines travaillant simultanément à la tricote dans la même pièce, s'émulent-ils ou se gênent-ils mutuellement en raison de la superposition des rythmes tricotiques ? Existe-t-il des tricoteurs ambidextres capables de casser deux fois plus de noix en tenant une tricote dans chaque main ? Est-il arrivé qu'une tricote soit utilisée pour commettre un meurtre ? Dans l'affirmative, la tentative de meurtre a-t-elle abouti ? Qui était la victime ? Qui était le coupable ? À quelle heure a eu lieu la chose ? Encore une question, existe-t-il une anagramme de tricote ? Dans la négative, et là je viens de vous donner un indice, combien de mots de 6 lettres en plus du mot crotte peut-on composer avec les lettres de tricote ? Y a-t-il des influenceurs spécialisés dans la tricote ? Ont-ils une carte de séjour en cours de validité ? Quelle représentation peut-on se faire d'une tricote fantaisie ? La question peut être posée une première fois à jeun, puis une seconde fois en fin de barbecue. Bon, et ben, qu'est-ce que vous faites tous abâchés dans vos fauteuils? Au travail, les amis.
Au travail, on va s'y mettre, on va s'y mettre. Il nous faut trouver un spécialiste de la tricote, c'est ça le problème. C'est ça, ils sont vraiment durs à trouver. C'est pour ça qu'on n'a pas encore fait cette émission. Voilà. Merci beaucoup, François Rollin. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen. Merci, Léa Lejeune, d'être venue nous expliquer ce qui se cache derrière ce féminisme washing. Je rappelle le titre de votre livre, Féminisme washing, quand les entreprises récupèrent la cause des femmes. C'est toujours disponible aux éditions du Seuil, même si une réédition serait la bienvenue, parce que depuis 2021, il s'en est passé des choses.
Ah, il faut le dire au Seuil, alors.
Il faut le dire au Seuil, bah voilà, il nous écoute comme L'Oréal qui n'oubliera pas non plus mes boîtes de Kérastase. Bain densifiant. Zoom Zoom Zen.